France Inter.
Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Après les poulets ukrainiens, voici le bœuf canadien. Dans une campagne européenne obsédée par les agriculteurs, le Sénat se penche aujourd'hui sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, pourtant déjà appliqué depuis 7 ans. Explication dans un instant. La une ce matin, ce sont aussi des comptes de plus en plus souvent réglés à coups de couteau. Quotidien des tribunaux de région parisienne. Cette semaine, c'est un meurtre qui est jugé. La mère de la victime se bat depuis 6 ans contre ces rixes toujours plus violentes. On va l'entendre. C'était la dernière région épargnée par le moustique tigre en France. La Normandie ne l'est plus. Effet du réchauffement climatique dont il sera aussi question à 8h20, Nicolas.
Oui, dans le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Nos invités tout à l'heure.
On est mi-mars et la sécheresse s'installe déjà en Méditerranée. La Catalogne, l'Italie, la Grèce enregistrent des températures records. Il a fait plus de 60 degrés ressentis cette semaine au Brésil. On fait le point avec l'hydrologue Emma Aziza et le chercheur en gouvernance du climat François Gémen à 8h20.
Et vos questions 01 45 24 7000.
Et d'ici là, nous irons en Turquie, laboratoire de la future forêt française, à Paris qui pourrait bien se couvrir de publicité pendant les Jeux Olympiques, et à Lyon où sera donnée ce soir la réplique du dîner en l'honneur des Kennedy à Versailles en 1961.
France Inter.
Quand la droite LR vote avec les communistes contre le libre-échange, c'est ce qui devrait se passer aujourd'hui au Sénat. Contre l'accord CETA qui supprime les droits de douane entre l'Europe et le Canada. Alliance de circonstances en plein malaise agricole. Sur un accord appliqué provisoirement depuis 2017, mais qui n'a jamais été ratifié par le Parlement français. Les communistes ont donc décidé de mettre les pieds dans le plat et de l'inscrire à l'ordre du jour pour le rejeter. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
7 ans déjà que s'applique ce CETA. Avec quel résultat ?
Alors les chiffres d'abord. Les exportations françaises vers le Canada ont augmenté d'un tiers, passant de 3,2 à 4,2 milliards d'euros, avec des hausses spectaculaires dans des domaines pas forcément attendus. Plus 142% pour les textiles et chaussures, plus 102% pour les produits sidérurgiques. Plus prévisible, le succès des vins et spiritueux et des fromages. Quant aux importations canadiennes, elles sont restées limitées. Pour le bœuf, par exemple, 52 tonnes importées l'an dernier, soit 0,0034% de la consommation annuelle française. Les défenseurs du texte évoquent aussi la sécurisation de filières d'approvisionnement avec un partenaire fiable dans des domaines sensibles comme le nucléaire ou l'aéronautique.
La France semble donc gagnante, Agnès. Alors quels sont les arguments de ceux qui s'opposent au CETA ?
En fait, les craintes concernent surtout l'avenir. Une fois l'accord signé, le Canada ou même un industriel canadien pourra dénoncer une entrave au commerce si la France venait à modifier sa législation en interdisant par exemple l'usage du glyphosate. La création d'une juridiction spéciale pour trancher ce genre de litige est d'ailleurs d'ores et déjà prévue. Sur le plan sanitaire, si certains traitements comme les hormones de croissance et les OGM sont effectivement interdits au Canada, un audit de la Commission européenne a mis en lumière des lacunes dans les contrôles. Les organisations environnementales, enfin, dénoncent l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en raison de l'intensification des échanges.
Agnès Soubiran, merci. Au rayon des inquiétudes que suscite cet accord, il y a, vous l'avez dit, l'alimentation et les standards canadiens qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est ça qui est potentiellement dangereux, selon Karine Jacquemart, directrice générale de l'association Foodwatch et invitée du 5-7 de Mathilde Munoz tout à l'heure.
Au Canada, plus de 40 pesticides sont toujours autorisés. Au Canada, le bétail peut toujours être nourri avec une certaine farine animale, pas toutes mais certaines, ce qui est totalement interdit en Europe depuis le scandale de la vache folle. Au Canada, le bétail est toujours nourri, traité avec des antibiotiques activateurs de croissance. On nous avait promis que les importations de bétail qui auraient subi ce traitement seraient interdites en Europe. Ça n'est aujourd'hui toujours pas en place.
Voilà, la suite, c'est donc ce vote attendu au Sénat aujourd'hui avant un éventuel retour devant l'Assemblée qu'il avait validé en 2019. 10 États européens, France comprise, n'ont toujours pas ratifié cet accord.
Il est 8h05, trouver de l'argent pour continuer à aider l'Ukraine.
Ça, c'est le sujet du jour entre chefs d'États européens réunis à Bruxelles. L'Ukraine a plus que jamais besoin d'armes pour contrer les frappes russes, comme celle qui a fait plusieurs blessés ce matin à Kiev. Armes anti-aériennes produites à flux tendu par le groupe français Thales dans son usine de missiles de Belfast en Irlande du Nord. Reportage signé Eric Biegala.
Ça, c'est le tir d'un missile solaire LMM. Et ceci, c'est un missile Starstreak, Les armes anti-aériennes construites par Thales UK à Belfast et qui font un malheur en Ukraine. Efficaces contre les hélicoptères, les chasseurs et même les drones russes. Nul ne veut dire combien de pièces ont été livrées, mais on parle en centaines. Une chose de sûre, l'usine de Belfast, où sont assemblées ces armes de précision, a mis les bouchées doubles, confirme Alex Creswell, le PDG de Thales UK.
Depuis le début de la guerre et jusqu'à aujourd'hui, nous avons doublé la production par rapport à ce qui sort de cette usine. La production a doublé en 2 ans. Et elle doublera encore d'ici les 2 prochaines années.
Il n'y a pas que les missiles eux-mêmes. Ceux-ci peuvent être tirés par un homme seul ou à partir d'un véhicule comme le Rapid Ranger. David Oliveira supervise l'intégration du système d'armes sur les Rapid Rangers.
L'assemblage d'un Rapid Ranger, c'est entre 6 et 8 semaines. Aujourd'hui, on a toujours une production qui est en cours, indépendamment de tout contrat. Donc on a investi sur des lots de Rapid Ranger et là, on est en train de les construire et on peut répondre maintenant aux demandes des clients.
Le groupe Thales, champion de l'électronique de défense auquel est affilié Thales UK, a connu une année 2023 des plus fastes avec en tout 18 milliards 400 millions de ventes.
Eric Biegala, et puis est-ce de nature à faire changer la donne au Proche-Orient? Pour la première fois, les États-Unis présentent une résolution pour demander un cessez-le-feu à Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU. Jusqu'ici, Washington avait toujours mis son veto aux résolutions présentées par d'autres pays.
Il est 8h07, Florence, quand les points ne suffisent plus.
Aujourd'hui, de plus en plus, quand une situation dérape, ce sont les couteaux qui sortent. Le nombre de blessés lors de rixes à Paris et en proche banlieue a bondi d'un quart entre 2022 et 2023. Et puis, il y a les coups qui tuent. Thomas à Crépol cet automne, ou encore Henri à Paris 20e. Il voulait se venger après le vol de son scooter. Il a succombé en 2018, mortellement blessé au couteau dans la bagarre. 8 jeunes adultes sont jugés cette semaine devant la cour d'assises des mineurs de Paris. Et depuis le drame, Morgane Klein refait, la mère d'Henri se bat contre ces violences mortelles entre bandes.
Sur les marches du palais de justice, Nathalie Birimta replonge douloureusement dans ses souvenirs.
Mon fils est mort le 24 octobre 2018. Le 25, je suis partie sillonner les quartiers. J'ai appelé les mamans. Je leur ai dit, aucune représailles. Personne ira venger dans le quartier au nom de mon fils.
Depuis, elle multiplie les actions de prévention avec son association. Les mères combattantes échangent avec les jeunes, leurs parents, mais elle l'avoue.
Il y a encore du travail à faire.
Notamment sur les armes, dont l'usage lors de rixes à Paris et en proche banlieue a bondi de 22% en un an.
Tous les jeunes se promènent avec le couteau. Et ils se disent que voilà, c'est pour se protéger. Mais protéger contre qui? C'est un problème qu'on doit prendre en amont. Il faut identifier ces jeunes problématiques qui entraînent les autres. Le profil, c'est la drogue, le décrochage scolaire.
Des parents absents aussi, alors les médiateurs, les associations encadrent au mieux, estime la mère de Henri. Mais le constat, c'est bien celui d'un échec partiel.
Est-ce qu'il y a aussi l'impact des réseaux sociaux? Non seulement ça échappe le contrôle du quartier, mais ça échappe aussi l'État. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour ces jeunes?
Question qu'elle laisse sans réponse. Il faut une réaction collective, estime-t-elle, pour sortir les jeunes du cercle vicieux des rixes et cesser enfin d'ajouter des noms à la liste des morts.
Voilà, la mort par accident après un refus d'obtempérer. Ça, c'est l'histoire du jeune Wanis au terme d'une course-poursuite et d'une collision avec la police la semaine dernière à Aubervilliers. Il était de la Courneuve où une marche blanche est organisée aujourd'hui. Dimanche, le commissariat avait été attaqué à coups de mortiers d'artifice. Moins d'émissions de CO2 en France, c'est la bonne nouvelle du jour. En recul de près de 5% l'an dernier, les émissions du secteur de l'énergie ont à elles seules baissé de 14%. La mauvaise nouvelle, c'est le strike du moustique tigre en France. La dernière région épargnée ne l'est plus, c'était la Normandie, où le tigre désormais sévit. Valentin Dunat, l'agence régionale de santé, nous l'a appris hier.
Ce petit insecte de 5 mm, reconnaissable à ses rayures noires et blanches, originaire d'Asie, est arrivé en France métropolitaine il y a 20 ans. Identifié dans les Alpes-Maritimes à l'été 2004, il est désormais présent sur tout le territoire. L'Aedes albopictus, c'est son nom savant, provoque des piqûres particulièrement désagréables, mais il peut surtout être vecteur de maladies virales comme la dengue ou le chikungunya. Les autorités sanitaires recommandent donc de mettre en place des gestes simples, vider sous-coupe, pot de fleurs, arrosoir, tous les endroits ou les objets pouvant contenir de l'eau stagnante qui peuvent constituer des gîtes larvaires. Il faut savoir que pendant sa courte vie, 3 à 4 semaines, la femelle pond 5, 6 ou 7 fois une petite centaine d'œufs à chaque fois.
C'est le réchauffement climatique qui a favorisé la progression du moustique tigre. Quand le climat change, des espèces se répandent, d'autres n'y survivront peut-être pas, comme les arbres de nos forêts. Il va falloir planter des variétés plus résistantes. Pour ce faire, la France a trouvé son laboratoire, c'est la Turquie. Reportage signé Marie-Pierre Véraud, dans une forêt turque où les deux pays collaborent.
C'est un terrain d'un peu moins de 1 hectare au cœur de la forêt d'Eskişehir en Anatolie centrale. Le climat qui prévaut ici ressemble à celui que devrait connaître notre pays à l'horizon 2050. Zeren Erik de l'Agence française de développement.
La Turquie et la France partagent des défis en commun. Par exemple, les incendies qui durent plus longtemps et qui sont plus fréquents, ainsi que les saisons sèches. Donc les types de forêts se ressemblent en Turquie et en France. Ce site, en fait, est un laboratoire vivant pour la France, pour que les forêts en France puissent survivre du changement climatique.
La France a expédié des pousses de chêne pour comprendre ce qui attend ces forêts et sélectionner les variétés les plus résilientes. Chêne du Morvan ou de la région de Loire, Jemal Karakurt, ingénieur forestier.
Si cette variété, ce chêne du Morvan, prend ici, elle prendra aussi en France. Ici, elle a montré une grande résilience. Elle est capable de croître dans son milieu naturel, mais aussi dans un terrain étranger. Elle pourra donc survivre en France et ailleurs.
Il faut maintenant travailler sur les stratégies d'adaptation de ces arbres. C'est là que la génétique entre en scène pour aider la forêt à inventer les arbres de demain. Eskişehir, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
1,6 milliard d'euros pour l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le groupe Vinci présente sa facture au gouvernement. Il aurait dû être concessionnaire de l'aéroport. Requête déposée hier au tribunal administratif de Nantes. Hermès poursuivi en justice aux États-Unis. Deux clients qui n'ont pas pu se procurer le fameux sac Birkin de la maison française, fabriqué en toute petite quantité, prix plancher 9000 euros. Les plus chers peuvent s'échanger à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les clients plaignants attaquent et reprochent à Hermès de réserver le sac aux gros acheteurs de la marque. Et tiens, y aura-t-il de gigantesques pubs Hermès ? Pourquoi pas sur les façades de la capitale pendant les Jeux Olympiques ? La carte postale serait sans doute un peu gâchée, mais business is business. Faustine Morian, et on peut s'attendre à tout puisque la loi olympique prévoit des dérogations exceptionnelles.
Y aura-t-il des pubs pour des voitures sur les façades de la Concorde ? Du soda sur le Trocadéro ? Un sac à main de luxe sur la Grand Arche de la Défense, ça peut, prévient Thomas Bourgenot, porte-parole de l'association de résistance à l'agression publicitaire.
Les quatre scènes, c'est du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces dérogations, c'est exactement fait pour permettre de la publicité sur les quatre scènes où normalement c'est interdit.
Les marques partenaires des JO pourront en effet exceptionnellement faire de la pub quasi partout dans une zone de 500 mètres autour des sites de compétition. Mais 500 mètres à partir d'où ? Les agences de publicité comme Terre Rouge attendent de le savoir.
Exemple, quel château de Versailles, site olympique.
Olivier Girardot est le directeur de l'agence.
Entend-on par château de Versailles ? Est-ce que c'est le jardin ? Est-ce qu'on prend 500 mètres à partir du point cardinal du parc ? Est-ce que c'est le centre du château à partir duquel on trace les 500 mètres ?
Et la cérémonie d'ouverture, site olympique à elle seule, ça pourrait faire rentrer beaucoup de bâtiments dans la danse.
Un particulier peut nous appeler en disant j'ai un très bel immeuble, très bien placé, j'aurais loué la façade. Il peut s'attendre à, en fonction de la visibilité, d'où ils sont placés, de comment ils sont vus, du recul qu'il y a, à beaucoup de retombées financières pour la copro.
Car la loi olympique dit aussi que les sites liés à l'organisation et au déroulement des Jeux sont concernés par ces dérogations. Ça veut dire le village olympique, le club France à la Villette et toutes les fan zones dans chaque arrondissement.
Faustine Morian, la chance au tirage au sort. Les Français du football s'en sortent bien pour les phases de poule des Jeux. Les filles d'Hervé Renard héritent du groupe Colombie-Canada-Nouvelle-Zélande. Les garçons de Thierry Henry auront droit aux États-Unis, à la Nouvelle-Zélande eux aussi, et aux vainqueurs du match de barrage entre la Guinée et une équipe asiatique. Et puis qui est le meilleur joueur, enfin le joueur le mieux payé de la Ligue 1 en France ? La réponse est sans surprise. C'est Kylian Mbappé au PSG. J'ai 6 millions d'euros bruts par mois. Selon les estimations de l'équipe, les Parisiens occupent les 10 premières classes, les places du classement. La joueuse la mieux payée, elle aussi, du PSG, c'est l'attaquante Marie-Antoinette Katoto. 58 000 euros par mois, c'est 100 fois moins que Kiki. Enfin, voici l'histoire avec un grand H raconté par le menu, la carte, si l'on peut dire. 4000 menus présidentiels vont être vendus aux enchères au mois de mai, collectionnés pendant des décennies par un chef lyonnais. La plus ancienne remonte à Napoléon III. La plus récente, c'est celle du banquet donné en l'honneur de Charles III en septembre novembre dernier. Cette vente exceptionnelle s'accompagne d'une mise en scène d'un des dîners les plus people qu'ait pu donner l'Élysée, le dîner en l'honneur des Kennedy au château de Versailles. C'était en 1961. Il est reproduit à Lyon ce soir au restaurant La Mère Brasier. Reportage Mathilde Imberti.
Charge à Mathieu Vianney de réinventer le menu dit Kennedy. Le chef doublement étoilé du restaurant La Mère Brasier se confronte à des classiques, la timbale de Sol Joinville, le parfait Viviane et en entrée, le velouté sultane.
Un velouté de volaille où on doit retrouver en fait des marqueurs de pistache. Donc là, on va faire un petit bonbon avec une farce de volaille et un cœur coulant à la truffe. Pas trop épais, pour pas que ce soit trop lourd. J'aime bien le côté un peu old school, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en faire quelque chose de très intéressant. C'est comme un pan de l'histoire, le général de Gaulle et Kennedy.
Ladies and gentlemen, I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it.
L'élégantissime Jackie vole quasiment la vedette au plus jeune président de l'histoire américaine qui, en juin 61, choisit Paris pour sa première visite d'État outre-Atlantique. La reproduction de ce dîner unique permet de mettre en scène la vente aux enchères d'une collection patiemment constituée par le chef lyonnais Christophe Marguin.
Ce menu de Kennedy, il est fabuleux. Pour moi, il y en a un aussi qui est fabuleux, c'est le menu d'inauguration du France par De Gaulle. Il y a quelques menus pendant la guerre de 14, donc il n'y en a pas eu beaucoup de menus pendant la guerre. Cette collection de menus, elle est folle parce qu'elle raconte vraiment l'histoire de France.
Et étant donné la liste internationale des convives de l'Élysée, la vente intéresse autant les collectionneurs privés, français qu'étrangers. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et voici pour la bonne bouche l'exemple d'un menu présidentiel de gala de 1927. Melon frappé, pointe d'asperges à l'étuvée, délices du lac d'Annecy à la Nantua, faux de l'estomac, ça n'est pas fini. Mignonnette d'agneau, Trianon, timbale de caille farcie à la Talleyrand, aiguillette de Canton à la Montmorency. Ça ne s'arrête jamais. Salade gauloise, granité, Aulançon, poire Singapour, frivolité chocolatée.
Oh, ça doit être bon. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, Florence Paracuelos?
Appelez le sommelier.
Ouais. Merci Florence. 9h20, Léa Salamé reçoit une star britannique, l'acteur Jude Law, qui incarne le roi Henri VIII dans le film Le jeu de la reine de Karim Aïnouz, en salle mercredi prochain. La météo servie tout de suite par Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Voilà, le shaker, c'est instable à l'Est.
Ah oui, complètement, car l'air chaud a gagné dès ce matin les régions de l'Est et ça crée un conflit de masse d'air. Ça donne des averses, voire des orages, des Vosges, au Jura, à l'Auvergne, aux Alpes du Nord, avec de la neige à 2200 mètres. Sur le reste du pays, c'est calme. Mais près de la Manche, on a un ciel déjà nuageux à cause d'une dépression britannique qui veut rentrer. Résultat, la nébulosité bien dense de la Bretagne et Hauts-de-France, doublée même parfois de brouillard des Abers bretons au Havre. On a encore dans le sud des entrées maritimes sur les côtes du Languedoc-Roussillon, des Alpes-Maritimes et de la Corse, dans une ambiance plutôt douce, même si par endroits c'est assez frais comme dans l'Orne actuellement, il n'a pas plus de 2 degrés. Et contraste avec les 14 à Port Nouvelle, il fait 6 à Rennes, 8 à Brive, alors que cet après-midi on aura 25, 11 à Paris, mais 4 à Beauvais.
Après-midi très agréable.
Oui, on va juste retrouver un peu d'ondes orageuses du Jura aux Alpes à l'Auvergne. Puis les nuages arrivés sur la Manche vont glisser davantage vers le sud, gagnant les pays de la Loire au bassin parisien. Le ciel se voile sous le vent en Méditerranée jusqu'à la Corse et une averse possible encore comme hier sur les Pyrénées, sous des valeurs encore bien au-dessus des normales, malgré une petite baisse au nord. Pas plus de 13 à Ouistreham, 15 à Lille, 16 à Ajaccio comme à Metz, vous aurez 17 à Nice comme à Rouen ou Brest, encore 19 à Paris et Sancerre, 20 à Nantes et Montpellier, comptez 22 à Lyon, 23 à Gap et jusqu'à 25 à Carcassonne, en se rappelant, Nicolas, que s'il pleut le jour de Saint-Benoît, il pleut 37 jours plus 3. Me demandez pas pourquoi.
Oui, voilà, mais acceptons-en l'augure. Merci Marie-Pierre, 8h20.